Bienvenue sur Ils l'ont fait, le nouveau podcast de Digiformag. Je m'appelle Pascal et chaque mois, j'ouvre notre micro à un maker du monde de la formation professionnelle. Il ou elle nous dévoilera l'une de ses réussites en 20 minutes chrono. Une belle manière de vous informer, mais surtout de vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue Sylvain sur cet épisode numéro 8, si je ne dis pas de bêtises, de Ils l'ont fait. Je suis ravie de te recevoir. Alors, cette fois-ci, je suis à distance avec toi. On ne va pas forcément passer beaucoup de temps à te représenter. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent te connaissent déjà. Mais on démarre toujours le podcast par une première question donc, qui est simple. Donc, tu peux me répondre pareil de manière simple en quelques secondes. C'est qu'est-ce que tu as fait et que tu as réussi ces derniers mois ?
Et en fait, du coup, le fait que ce soit le numéro 8 ou pas, tu veux que j'aille fact-checker ce sujet ou c'était juste une petite intro ?
Écoute, ne t'inquiète pas, je le refacterai toute seule après. Tu peux y aller.
Cool. Salut à tous. Sylvain, et dernier truc à réaliser, c'est la création d'une école en partant un peu de zéro et sans diplômer mes étudiants, puisque du coup, le BAU n'est pas certifiant ni diplômant. Initialement sous format de bootcamp, c'est-à-dire 3 mois non-stop, 13 semaines précisément non-stop, pour acquérir des compétences et démarrer un nouveau métier, sachant que l'école est gratuite pour l'étudiant et qu'on leur propose un job à tous avant même qu'ils démarrent la formation, ils ont déjà signé un contrat de travail. Ça c'était au début, c'était un bootcamp et maintenant c'est sous forme d'alternance. Okay. C'est peut-être le truc un peu fou qu'on a réussi, mais je sais pas comment l'expliquer vraiment, c'est que ces alternances sont financées par les OPCO et par les employeurs, sans diplôme.
Ok, donc ça c'est peut-être déjà un premier point un peu technique, mais au moins, est-ce que tu peux nous redire le métier précisément et les profils que tu as aujourd'hui et depuis quand en fait l'école est créée ? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises aussi, qu'elle est à Paris et à Lyon et que peut-être tu as d'autres projets pour ces prochains mois.
Alors on a lancé l'école en septembre 2020. L'école forme au métier de digital learning, être capable de concevoir des formations hybrides, présentielles et distancielles, passionnantes et efficaces. Les deux mots sont très importants parce que souvent les formations distancielles sont très chiantes. Et en plus de ça, on va les évaluer avec un pauvre quiz à la fin qui ne démontre pas que les gens ont vraiment acquis le sujet et sont capables de le reproduire. Donc voilà, on va former des étudiants, des personnes en reconversion principalement, à être capables de créer des e-learning notamment, qui sont canons et qui donnent envie d'être suivis et appris et mémorisés. Voilà un peu le sujet de début, mais sachant que du coup, avec la particularité que cette école a été créée par une agence qui fait ce métier-là, l'agence SYDO, S-Y-D-O, qui compte 22 salariés, qui font ça au quotidien depuis 14 ans. Et du coup, on a souhaité transmettre ce savoir-faire à des personnes en reconversion, parce que beaucoup de demandes sur le marché, parce qu'aussi on vit que le niveau des formations distancielles s'améliore, et que jusqu'à ce qu'on voyait n'était pas toujours de très bonne qualité. Et on s'est dit, bon, ça va être aussi notre responsabilité de former des gens qui sont capables de faire des choses cool et alors, de répondre aux besoins de nos clients.
Ouais, c'est vrai qu'on te connaît beaucoup par SYDO et puis par ce combat que tu mènes depuis plusieurs années justement pour améliorer l'état de la formation pro en France. Et donc, tu n'as pas créé le BAU par hasard. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être, ça serait intéressant de voir des parcours d'apprenants. Alors on a une connaissance commune, moi j'adore son parcours parce que c'est vraiment je pense très significatif ce que tu fais au BAU. Donc c'est Pauline, alors je pense qu'elle se reconnaîtra. Elle était à la base chef de projet dans un incubateur, donc pas du tout dans la pédagogie, hein, c'était pas son métier. Alors, donc elle a rejoint le BAU, elle a beaucoup travaillé, ça a été intense. Paraît-il. Elle est partie à Nantes, elle a rejoint une agence en création de contenu e-learning. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle gère l'académie.
Elle crée une école de.
Elle crée l'académie du projet Révolt, qui est en fait, qui sont les prochains e-garages français.
Ouais, qui forment des mécaniciens à transformer votre voiture en voiture électrique. Et c'est génial.
Et finalement, en 2 ans, de par cette formation, elle a complètement revu son parcours et aujourd'hui, elle s'éclate dans ce qu'elle fait et elle a plein de choses à imaginer. Donc voilà, pour moi, c'est un parcours qui est vraiment, vraiment significatif de ce que vous faites au BAU. Je ne sais pas si tu en avais d'autres.
On regarde pas ni les diplômes, ni l'âge, ni les expériences précédentes de nos étudiants. Donc, on va avoir du bac moins 2 à du bac plus 8 dans nos étudiants. Après, on a des prérequis sur l'orthographe, les capacités rédactionnelles et la curiosité, notamment. Mais on va avoir un gars, je suis ultra fier de son parcours et de son évolution. Il était peu diplômé et responsable d'une équipe de réparateurs de stores, mais s'ennuyait profondément, passionné, très curieux, et le week-end, il programmait des drones pour faire des photos sur des sites naturels magnifiques. Donc le gars, un peu technique, mais dans son métier, pas du tout. Enfin, si, métier manuel, hein, parce qu'il réparait des stores, mais bon, voilà, il était pas... On n'utilisait pas toutes ses capacités dans son job, et bah, comme il n'avait pas beaucoup de diplômes, on le refusait un peu de partout, et surtout, il pouvait pas repartir dans un cycle de 5 ans pour se former sur un sujet plus technique. Et on l'a accueilli, et en 3 mois, il était quasiment sorti majeur de promo. C'est aujourd'hui une star sur Storylines. Il crée des super contenus sur ce sujet. Il est en agence et c'est un cador. Il s'éclate. Les clients l'adorent parce qu'il crée des super contenus. Il est bon graphiquement. Il s'est formé à plein de choses à côté. Et là, pour moi, c'est aussi une vraie réussite d'un gars qui était un peu exclu du système. Autant Pauline, tu vois, elle avait quand même des jolis diplômes déjà. Elle avait un beau parcours et c'est une nana ultra forte. Et je ne doute pas qu'elle aurait réussi presque à se reconvertir par elle-même, quoique on l'a sûrement un peu aidé. Mais lui, c'était encore plus compliqué et je trouve ça trop cool. Ou après, on a beaucoup, malheureusement, et le mot malheureusement est important, d'anciens profs qui
Ouais.
viennent chez nous parce que pas d'évolution, parce que pas soutenu par la direction, parce qu'on ne les forme pas à la pédagogie et ils galèrent dans leur classe, parce qu'ils se rendent compte que le numérique peut être intéressant dans leurs usages et dans leur travail, mais qu'ils n'ont pas le temps ni les moyens de le faire, voire pas les outils non plus appropriés. Et du coup, qui viennent bah, au Bahut pour se former là-dessus et pour faire ce métier en disant bah, on rêve de créer des bonnes formations. En tant que prof, on n'avait pas ce temps-là et finalement, on faisait beaucoup la police, beaucoup la discipline et
Ouais.
pas tant le cœur de notre métier qui était de transmettre. Et donc, c'est un peu triste parce que moi, je rêve que l'école soit un endroit passionnant dans lequel tout le monde apprend et progresse. C'est malheureusement pas toujours ça. Il y a des profs géniaux. Et qu'il faut, je trouve, plus les aider, plus les payer aussi, parce que du coup, c'est fou, parfois en alternance, ils sont plus payés qu'en tant que prof, quoi, après 5 ans d'expérience.
Et est-ce que
Donc voilà.
justement, tu parlais du salaire là, sur ce métier qui est vraiment... Alors moi, je pense que c'est un nouveau métier, mais tu me diras que non.
Si, si.
DLM, je pense que ça fait peut-être 3-4 ans, maximum 5 ans que c'est apparu au sein des entreprises, des
C'est la
organismes de
pandémie, hein,
formation.
c'est
Mais
3 ans. Jusque-là,
voilà.
ça n'existait pas vraiment. Il y en avait, mais ça s'appelait pas comme ça et c'était pas très
Ouais.
bien vu.
Ouais.
Il y a 3 ans, c'est devenu stratégique pour les boîtes de proposer des formations distancielles de qualité aux salariés qui sont en télétravail ou en full remote. Et qu'en plus, c'est un moment pour échanger entre pairs, c'est un moment pour progresser perso et un moment pour fidéliser ses équipes. Et sauf que c'est pas en mettant un PDF en ligne avec un quiz que ça va fonctionner. Et que là, ils se sont rendu compte que c'était un métier un peu technique qui demandait des connaissances et qui pouvait pas tout sous-traiter des agences. Et qui voulait un peu internaliser ça. Donc c'est depuis 3 ans que c'est devenu un métier qui devient important dans l'entreprise. Mais après, effectivement, ça fait effectivement 20 ans que le distanciel existe et qu'il y a des gens qui font ça, mais que ça ne plaît pas encore comme ça.
Et alors toi aujourd'hui, donc tu as quand même quelques promos derrière toi. C'est quoi les compétences et les qualités pour faire ce métier et le faire bien dans le temps?
C'est de se mettre dans la peau de l'apprenant. D'arrêter d'écouter l'expert et de se poser les questions de qu'est-ce que l'apprenant va retenir et comment il va apprendre et comment je vais lui amener tout ça. Donc c'est réussir à personnaliser un maximum, à rendre ça le plus efficace pour le plus de gens possible, se dire qu'il n'y a pas qu'une façon d'apprendre, il y en a plein, et de se détacher de la technique. Enfin, en tout cas, nous, c'est
Oui,
ce qu'on
j'allais dire,
essaye
c'est
de
ça en fait.
vivre.
Pour moi, il y a beaucoup d'outils, mais là, tu ne me parles pas des outils. Là, tu me parles plutôt de la partie ingénierie pédagogique, mais.
Mais en fait, faut les connaître pour savoir ce qu'on peut faire avec chacun et pour voir si tu en as besoin ou si tu peux reproduire ça ailleurs. Tu vois, un Didasque qui permet de travailler par l'erreur, qui est très intéressant. Un Pitchboy qui permet de faire la simulation de dialogue, donc je suis ultra fan quand tu dois t'entraîner à faire des pitchs ou à faire des discours téléphoniques. Un Sphere qui permet de faire la réalité immersive, qui est très cool quand tu dois faire découvrir un lieu, un local et demander aux gens de commencer à faire des gestes sans qu'ils se mettent en danger. Un Storyline qui permet de gamifier à fond des sujets. Un Cumulus qui permet de mettre un peu d'interactivité dans les vidéos. Mais le tout, c'est de les connaître pour savoir ce qu'on peut faire, pour savoir l'intérêt que ça va avoir. Et ça va pas être intéressant. Chacun de ces outils va pas être intéressant pour tous les sujets, pour tous les apprenants et pour tous les formats. Donc, faut réussir à les connaître pour dire c'est plus un sujet. Se dire, moi, voilà mon ingénierie, comme j'ai réfléchi. Là, je vais les faire bosser par l'heure. Là, je vais leur faire faire quelque chose. Là, je vais leur faire découvrir et faire peut-être un modèle de classe inversée où je vais leur envoyer le contenu avant et on va se faire une petite classe virtuelle ensemble pour en discuter. Mais ils auront le droit de participer à la classe virtuelle que s'ils ont lu le contenu. Mais voilà, et que c'est, voilà, que ça te fait plus peur, en fait. Les outils te font plus peur parce que tu es capable de le faire toi-même. Tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils apportent et que tu connais leurs limites aussi. Ça n'empêche que nous, on a une trentaine de partenaires outils qu'on forme beaucoup de nos étudiants aux outils pour que justement ils sachent faire et que ce soit pas un frein à la création pédagogique.
Oui, un frein ou au contraire parfois une excuse en disant voilà, j'ai pas tel outil ou finalement cet outil pourra tout faire alors que le fond du problème il n'est pas forcément dans l'outil quoi, il est ailleurs.
Complètement.
Et oui, j'ai bien appris ma leçon, t'as vu?
Bravo, c'est exactement
Alors,
ça.
est-ce que tu dirais que aujourd'hui en France on a passé un cap où il y a encore un manque de cette compétence-là? Tu sais que là, nous, chez Digiformag, chez OF Connect, on suit aussi les entreprises et leurs besoins en formation, notamment en formation à distance. Et moi, quand même, mon opinion globale, c'est qu'il y a encore énormément de travail à faire. Il y a énormément de contenu à créer, mais pas des contenus basiques, hein. Il y a vraiment des choses à adapter aux salariés, à adapter aux apprenants. Et que finalement, c'est un sujet qui est infini et qu'il n'y aura jamais assez de compétences pour y répondre.
Un sujet infini, un sujet cher aussi. Et pour l'instant, pour moi, on est rentré dans une phase d'industrialisation où il faut que le contenu existe à distance. Et il y aura une phase après, il faut que le contenu existe à distance et soit cool. Parce que là, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de boîtes qui me disent, mais moi, j'ai besoin de tout proposer à distance, que mes étudiants, je peux plus toujours les faire venir en fonction des pandémies, en fonction des sujets, en fonction des déplacements. Ouais, mais ce que tu fais là, franchement, en termes d'engagement, ça va être chaud de motiver tes étudiants à venir dessus. C'est moche, ça donne pas envie, c'est lourd, c'est long. C'est pas adapté. Il fait oui, mais j'ai pas le temps de bosser 2 jours sur chaque module d'1 heure, ce qu'il faudrait normalement, minimum, grand minimum. Faut que ce soit mis en ligne. Et je dis ok, au moins ça existe, ça a le mérite d'exister. Et c'est déjà un boulot parce que c'est pas si simple à mettre en ligne, à s'assurer que le
Non.
parcours soit dans le bon sens, de
Non,
vérifier que les
déjà, on peut
étudiants
aussi rassurer ceux
vont.
qui nous écoutent, qui se lancent là, dans la partie e-learning. Enfin, clairement, on ne fait pas d'e-learning en 1 heure, quoi. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Et si un jour on vous demande de le faire en 1 heure, c'est que clairement, la mission n'a pas été comprise, quoi.
C'est ça, exactement. Tout à fait. Et du coup, on va passer dans une phase de maintenant, on veut s'assurer que les gens aillent au bout. Il y aura un sujet complétion. Il commence à y avoir un sujet un peu évaluation et ROI. Est-ce que les gens sont allés au bout? Est-ce que ça a changé leur pratique? Est-ce qu'ils ont été satisfaits de cette formation? Et pas uniquement, on leur a proposé quelque chose à distance et ils ont fait avec ce qu'il y avait, quoi. Donc, des bons DLM va y avoir besoin. Il y a des salaires qui sont de plus en plus intéressants pour des gens qui savent faire et qui n'ont pas peur de mettre les mains dedans. Je donne les vrais chiffres. On essaie de pas trop bullshiter là-dessus. Pendant notre alternance, nos étudiants sont en moyenne rémunérés 25 000 euros bruts. Et post-alternance, pour l'instant, les chiffres qu'on avait des promos précédentes, c'était autour de 33 000 euros bruts en moyenne. Là, sur la nouvelle promo, on est plutôt, je pense qu'on sera plutôt autour de 35, parce que ça devient un peu stratégique et il n'y a pas grand monde qui sait faire.
Ok, bon, mais bonne nouvelle.
Mais
Donc,
en autre compétence qu'il faut avoir pour tous ces gens-là, hein, c'est la curiosité, c'est parce que le marché évolue tout le temps, il y a des nouveaux produits qui arrivent régulièrement, et de regarder ce qui se passe et de réfléchir à ces nouvelles tendances. Moi, par exemple, dans les nouvelles tendances qui m'éclatent, c'est toute la partie après la formation. Comment créer des réflexes? Comment pousser les gens à appliquer ce qu'ils ont appris? Et il y a des applications comme 50 ou Microdoing que je trouve intéressantes à proposer ou à réimaginer pour que tous les jours, par exemple, tu dois acquérir des compétences, enfin, tu veux être un spécialiste de storyline, on en parlait juste avant. Donc, ok, tu as suivi une super formation de 3 jours, tu as appris plein de choses, mais si tu pratiques pas au quotidien derrière, dans 6 mois, tu auras tout perdu. Et ces applications te permettent de tous les jours t'envoyer un petit challenge, te dire, bah tiens, tu vas créer une storyline, enfin, on t'a envoyé une base de storyline et tu vas mettre un timer dessus pour que tu aies 15 secondes pour réaliser l'action. Le lendemain, on va te demander de créer autre chose. Et en fait, tous les jours comme ça, tu as quelque chose à faire sur un projet qui a du sens pour que tu lâches pas. Et qu'à la fin, tu puisses vraiment dire, bah, c'est bon, je sais faire beaucoup de choses dessus, j'ai appris, c'était que des morceaux de 15 minutes, donc c'est du fast et facile à intégrer et à mettre dans son agenda. Et donc, même si j'en ai pas produit beaucoup pour ma boîte, je me sens aujourd'hui très bon sur ce sujet. Donc là, je te prends sur les techniques, mais ça peut être pour des vendeurs, ça peut être pour Calliope. J'adorerais faire ce truc Calliope pour que les gens prennent des réflexes et ce soit plus vu comme une contrainte et comme une souffrance, mais comme quelque chose de logique et de positif pour et l'apprenant et l'employeur.
Et sachant que à ceux qui te répondent, oui, mais bon, les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas le temps, c'est compliqué pour tout le monde. Bon, je note quand même que la plupart des gens passent un certain nombre d'heures sur les réseaux sociaux la semaine. Donc peut-être que si on peut détourner ce temps de cerveau disponible sur de la formation, ça serait pas idiot.
Moi, je te
Et
partage
c'est
une autre
simplement
idée
que les gens erronent.
un peu folle là, qui me fait marrer en ce moment, c'est que depuis peu, on peut personnaliser l'écran de verrouillage de l'iPhone. Enfin, on peut coder une application qui personnalise l'écran de verrouillage de l'iPhone. Et je rêve de créer une appli qui permette de poser une question afin de déverrouiller l'écran. Et tu peux, c'est pas ton code, ton code ne suffit pas à te rendre ton écran accessible. Tu dois répondre à une question technique sur Calliope, sur Storyline, sur ce que tu veux, avant d'y accéder. Et je crois que le téléphone, j'ai vu des stats, genre on le déverrouille plus de 20 fois par jour en moyenne. Donc tu imagines l'effet de répétition, où
Ça
du
serait
coup,
l'enfer si t'as pas la réponse.
ouais, mais de toute façon, ça te donne accès, ça t'explique que tu as eu faux et ça te donne la réponse et tu as comme accès à ton téléphone. Mais en gros, bah, tu dis, on passe beaucoup de temps sur les réseaux, oui, et notamment sur notre téléphone, sur le réseau, sur autre chose. Bah là, en fait, on en profite pour te. Faire acquérir des réflexes et t'ancrer mémoriellement des sujets. Ça me ferait marrer, voilà, dans les sujets qui me font rire en ce moment.
Ouais, bah écoute, moi ça serait un peu l'enfer pour moi, parce que moi c'est à peu près 50 déverrouillages par jour. Mais ceci dit, c'est pas con, c'est
Même
pas
pour
con.
apprendre l'orthographe, c'est des lacunes orthographe, c'est
Ouais.
vachement plus cool que de te mettre une heure devant un truc
C'est
d'orthographe
ça.
qui va t'ennuyer.
Ouais. Avant que qu'on se quitte, quand même, Sylvain, on peut pas ne pas parler du Canada, parce que ça fait un petit moment que
Yes.
tu es parti à Montréal. Alors, quand on a préparé le podcast, là, avant de t'avoir, là, je te disais, alors, est-ce que vraiment les Canadiens sont si bons que ça en pédagogie, quelle est la part de vrai et de faux dans tout ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, comment s'est passé déjà tes quelques mois là-bas à Montréal et est-ce que vraiment les Canadiens sont si bons en pédagogie?
Ils ont beaucoup investi dans l'éducation. Les profs sont un peu plus formés, sont beaucoup plus payés. Tu démarres ici à 55 000 dollars canadiens et au bout de 16 ans, tu arrives à 96 000 dollars. Donc ils sont motivés, accompagnés, suivis. Dans chaque école, il y a une psychomotricienne pour accompagner les enfants en difficulté. Tu as souvent aussi un technopédagogue, un digital learning manager, qui est là pour aider les profs à utiliser la techno et que ça ait du sens dans leur formation, dans leurs apprentissages. Donc oui, à l'école, ils ont fait des efforts. Alors après, il y a d'autres limites à l'école où alors, ils apprennent vachement à pitcher, ils apprennent à travailler à plusieurs, à faire des projets. Théoriquement, parfois, ils vont moins loin parce qu'il ne faut pas trop que ça fasse mal, il ne faut pas trop que ce soit dur. Mais bon, ça dépend des enseignants, ça dépend des écoles. Mais en tout cas, à l'école, oui, ils ont plus investi que nous, ils font plus d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de gens qui arrivent au bout. Parce que pour l'anecdote, ici, tu peux commencer à travailler à partir de 13 ans.
Ouais.
C'est légal. Et que si tu n'aimes pas trop l'école, bah, tu quittes l'école parce qu'il n'y a pas de chômage. On est à moins de 20% ici à Montréal. Il y a du job de partout. Tu te bats dans la rue, il y a
Et en
des
plus
panneaux,
des
on
jobs
embauche partout.
ouais,
Et
des
des
jobs
jobs où
bien
tu payes.
payés en plus. Très bien
Ouais,
payés quand t'as
ouais,
13 ans, c'est vrai que c'est assez extraordinaire.
ça peut donner envie et qui ne demande pas toujours des diplômes. Parce que bah, si tu es bosseur et que tu n'es pas con, franchement, tu peux t'en sortir ici. La reconversion est vachement plus acceptée qu'en France, par exemple. Et du coup, les gens ne vont pas toujours au bout. Bon, ça, c'est un point de détail. Ça ne veut pas dire que ce soit bien ou pas bien, j'en sais rien. Néanmoins, on leur apprend à investir sur eux et à se rendre employable toute la vie. L'inconvénient de ça, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui investit sur eux, c'est eux-mêmes. Donc la formation continue est plus pauvre qu'en France. Il se passe plutôt moins de choses. Mais par contre, c'est à chacun de se débrouiller. Parce que comme tu es virable à tout moment, quelle que soit ton ancienneté, quel que soit ton statut, c'est pour l'anecdote horrible, c'est même arrivé à une copine qui était en congé maternité, qui s'est faite virer par téléphone pendant son congé maternité, et c'est légal ici. Bah c'est à toi d'investir pour être réembauchable sur un sujet. Mais c'est pas trop la boîte qui le fait. Et bizarrement, les LMS sont, enfin les boîtes sont assez peu équipées d'outils pour se former au quotidien, contrairement en France. Et tu vois, le truc tout con, c'est l'association EdTech France.
Ouais.
C'est 80% de logiciels pour le monde de la formation continue et 20% pour le monde de l'éduc. Ici, c'est l'inverse. C'est 80% pour le monde de l'éduc et 20% pour le monde de la formation continue.
Ok. Mais ce qui ne veut pas dire non plus que les adultes ne font rien pour leurs compétences et
Ah, ils se
leur
prennent vachement plus
apprentissage.
par la main. Il y
Ouais.
a un engagement plus fort, il y a une motivation forte parce que ça va leur permettre de retrouver un boulot, de se relancer sur quelque chose. Donc, c'est pas vu comme en France. Après, c'est aussi plus cher parce que du coup, il n'y a pas tout ce qui est OPCO, il n'y a pas tout ce qui est
Ou
financement
CPF,
public de la
il n'y a
formation.
pas. Ouais.
Non. Donc, c'est vu très différemment, c'est consommé très différemment. Ça veut pas dire que c'est inexistant. Après, je les trouve presque moins exigeants que les Français sur les contenus. Ça, c'est mon prochain article. Franchement, les e-learning que j'ai vus ici sont pas ouf. Bon, je n'en ai pas beaucoup vu des oufs en France, mais il y en a. Par contre, il y a des trucs exceptionnels, parce qu'ici, le gouvernement a financé certaines expérimentations, et c'est ici que j'ai vu la seule vraie formation adaptive, donc qui s'adapte à tes réponses, à ton comportement, à ton niveau et à ce que tu as envie d'apprendre, et que ça marche vraiment, et que c'est génial, et que souvent, pour moi, en France, l'adaptive, c'est un mot bullshit, c'est bon, c'est un truc à embranchement.
En tout cas, il y a une volonté de certains de le mettre en place, mais comme tu disais au départ avec la partie digitale, il faut au moins qu'il y ait un début, un démarrage. Et puis après, derrière, on va, je pense, enfin, chacun pourra s'améliorer, effectivement.
Mais du coup,
Et,
ici, ils ont eu les moyens de le faire pour de vrai
ouais.
sur un gros truc avec beaucoup de data et beaucoup de gens. Et donc, ils ont des expérimentations comme ça par collège, par université, qui sont magnifiques, mais qui ne sont pas derrière dupliquées. Donc oui, il existe des choses incroyables, mais comme en France, au final, si on creuse. Hein. Mais la moyenne n'est pas si folle.
Ok, ça marche. Bon, bah, écoute, en tout cas, partage-nous tout ce que tu peux observer là, dans ta newsletter Sidologie. Et puis en parallèle, moi j'avais une question aussi. Alors tu m'as dit, on peut tout aborder, il n'y a pas de sujet tabou. Est-ce que tu peux me parler du CPF, du bahut et du CPF? On a vu qu'il y a quelques mois, donc tu avais été retoqué. Est-ce que tu lâches le CPF ou est-ce que tu vas retenter le coup cette année?
Alors plus que CPF, j'ai essayé de déposer un titre RNCP, donc
Oui, voilà, plus t'as raison de le préciser, ouais.
pour diplômer, pour que mes étudiants soient certifiés à l'issue de la formation. Et bizarrement, c'est pas une demande de mes étudiants, c'est une demande des employeurs. Parce que je le disais en introduction, notre formation n'est pas certifiante et pourtant elle est financée par les OPCO. Mais il faut se battre un peu parce que les OPCO eux-mêmes ne sont pas toujours au courant que c'est faisable. Alors aujourd'hui, moi j'ai la jurisprudence chez Acto, Atlas, EP et 2i où j'ai des lettres comme quoi c'est bien finançable et qu'ils me l'ont déjà bien financé. Mais il
Ok.
faut se battre. Chaque conseiller, il faut se battre. Donc on s'était dit, ça nous permettrait d'éviter ça et de simplifier la vie à tout le monde. Et en plus, notre format ne fonctionne que pour les entreprises du privé. Le public ne peut pas prendre nos étudiants, ce qui ne peuvent prendre que des apprentis. Et pour être apprenti, il faut que ce soit diplômant ou certifiant. Donc voilà pourquoi on était dans cette aventure. Aussi parce que c'était un défi fou. Après, ça a été assez dur à vivre parce que c'est un énorme dossier qui passe un temps de fou. T'as plus de nouvelles pendant 9 mois, aucun contact. Au bout de 9 mois, tu découvres la liste des titres qui sont acceptés, t'es pas dedans. Et après, tu as enfin un échange téléphonique d'une heure pour qu'on t'explique pourquoi. Et on a très bien compris pourquoi, c'était vachement plus clair. On aurait aimé qu'on nous le dise plus tôt pour pouvoir retravailler notre copie, mais c'est comme ça. Et on va le refaire quand même parce que ça nous semble intéressant et important pour nos étudiants et nos employeurs. Après, si on l'a pas, c'est pas non plus la fin du monde.
Non,
Par
mais
contre,
je pense qu'à la
effectivement, on ne peut plus
deuxième,
prendre de
vous
CPF.
l'aurez. Non, non, on en reparle à la fin d'année, mais je pense que j'espère que ça sera bon pour vous.
Mais du coup, après moi j'ai plein de. Enfin, CPF c'est un vrai gros sujet. Je suis évidemment contre le fait de demander aux gens de payer, parce que c'était pas l'idée et que pour certaines personnes ça va les empêcher de se former. Pour autant qu'il y ait un vrai contrôle de l'usage de CPF et que derrière on impose à ce qu'il y ait vraiment un nouveau job ou une progression interne et que ce soit pas juste je me forme pour me former parce que ça me fait marrer, ça pourrait être intéressant effectivement.
Ça marche. Bah écoute, ça sera le mot de la conclusion de l'épisode. Je te remercie pour tout, Sylvain.
Merci Pascal.
À très vite à Lyon, à Paris, à Montréal. On verra bien.
Septembre prochain, Lyon, on se fera un verre dans les locaux de Biforma dans
Et
une
bah,
belle.
super, ça marche. Merci à toi.
À bientôt.
À tout.